Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, nous avons la joie d'aujourd'hui de pouvoir avoir avec nous par téléphone une des voix de notre siècle, qui cette voix que j'ai beaucoup lue sur les revues de poésie depuis des années. Il s'agit de Basile Rouchain. Basile Rouchain, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie pour cette émission Le Poète, qui vous est consacrée, dont nous allons passer près d'une heure ensemble à parler de vos publications. Alors, je vais vous laisser vous présenter peut-être d'une façon plus pertinente, mais au départ, je voudrais dire ceci. La poésie, c'est Jo Bousquet qui dit ça, et c'est une citation qui a été faite par Joël Vernet, qui est un des poètes pour lequel nous avons consacré une émission il y a peu de temps. La poésie, disait Jo Bousquet, même n'est qu'un cheminement vers certains sommets que la réalité quotidienne est seule en mesure de nous découvrir. Cette réalité quotidienne, je crois qu'elle va apparaître dans toute l'œuvre donc de Basile Rouchain, et vous allez voir comment elle apparaît, cette réalité, d'abord avec une des composantes qui devient assez rare maintenant dans la poésie contemporaine, parce que c'est la plus difficile, c'est celle de l'ironie et de l'humour, mais également avec cette lucidité sur la réalité. Jo Bousquet qui disait aussi la poésie, la langue naturelle de ce que nous sommes sans le savoir. Ce que nous sommes sans le savoir, c'est un peu ce que nous dit Basile Rouchain dans l'ensemble de ces recueils. Alors, Basile Rouchain, merci donc encore une fois d'être avec nous. Moi, je vous ai lu sur les revues de poésie, par exemple chez celle de Cathy Garcia Canelès, Nouveau Délit, sur toutes les revues de poésie donc de notre époque, hein. Il y avait Décharge, bien sûr, Friche, je me souviens également de Poésie Première, Poésie sur scène, enfin bref, là vous avez marqué un petit peu votre et c'est bien dans le fond de travailler en revue. Beaucoup de poètes le font, ils ont certainement raison, c'est une façon de se faire connaître. Alors, vous habitez la région parisienne, c'est une région Plessis, comment ça s'appelle déjà, Plessis ?
Plessis-sur-Mer.
Oui, donc c'est une région que je connais bien parce que j'ai une fille qui a habité 3 ans là, qui était bibliothécaire à l'université de Sceaux. Donc, vous avez la chance d'habiter, c'est un beau coin.
Oui,
c'est un beau coin, très verdoyant, hein, avec le parc de Sceaux, etc.
Tout à fait.
Et vous faites partie de ces auteurs qui sont nés dans les années 70, donc vous êtes un après 68 ans. Et donc vous avez à votre actif plusieurs recueils que nous allons citer, et donc nous allons faire entendre la voix, sans respecter peut-être l'ordre chronologique. Scène du placard aux éditions du Port d'Attache. Alors là aussi, c'est tout à fait singulier comme écriture et comme publication, hein, donc vraiment à recommander. Il est écrit sur la quatrième de couverture comme Pierre Michon et ses vies minuscules, mais avec une toute autre partie d'écriture. Basile Rouchain compose ainsi, fragment après fragment, un roman qui ne dit pas son nom, celui des laissés pour compte modernes. Il faut lire ces scènes du placard comme une sorte de puzzle pour voir de page en page se dégager le portrait d'une société en perdition. Alors, cette société en perdition, j'ai l'impression que, je dirais qu'elle s'accélère actuellement. Donc nous allons en parler avec vous et vous demander de nous faire un petit peu le commentaire de ce recueil et de nous lire quelques extraits. Mais je vais, avant, si vous le voulez bien, faire un petit peu la recension très rapide donc, des autres recueils que nos auditeurs peuvent se procurer. Il y a aux éditions Le Citron Gare, alors là aussi, une très, très belle édition. Hein. C'est vraiment très parfait ce qu'il fait là, le Citron Gare. Dimanche sans bigoudi, avec des illustrations de Jeanne Bernard Châtille. Un très beau livre, un très 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 beau livre, très agréable, avec ses illustrations qui sont très fines, très subtiles, vraiment colorées. C'est vraiment un très très beau livre, même comme objet, pour une somme excessivement modique, puisque ça ne coûtera à nos auditeurs que la somme de 10 euros. Alors, sur la quatrième de couverture, on peut lire, il y a dans l'écriture de Basile tout ce trop-plein de quotidien. Alors, on va retrouver donc ce quotidien, alors le quotidien des laissés pour compte, hein, ce trop-plein de quotidien. Ce que je disais tout à l'heure à propos de ce que disait Joe Bousquet déjà, hein, Joe Bousquet qui est mort en 1950 et qui disait, donc je rappelle que la poésie n'était qu'un acheminement vers certains sommets, que la réalité quotidienne est seule en mesure de nous découvrir. Et cette réalité quotidienne, bien ce sont pas, comment dirais-je, les journalistes, les chroniqueurs, etc., qui la cernent le mieux, ce sont les artistes. Ce sont les artistes, et en particulier, ce sont les poètes. Et donc, il y a là, dans l'écriture de Basile Rouchain, dans tout ce trop-plein de quotidien, qui pourrait déborder et se dépendre avec amertume et fatalisme, nous dit Laurent Bessières. Mais, trempé dans la tendresse et l'ironie, chaque phrase scinde l'espoir et les atermoiements pour mieux nous rendre à notre humanité. Dans cette série de portraits paysages, trampoline de l'humour, hein, je parlais de l'humour tout à l'heure, hein, ça fait du bien de lire. Bon, c'est souvent un humour un peu noir, un peu glacial. Mais les mots se propulsent, se décalent et se laissent choir, écartant les paravents du pré-mâché, de la posture et de l'attendu. Nature parée de nos bibelots et sentiments nous révélant nous-mêmes, figure tutélaire du Père, autant respectée que rejetée, soubresaut contradictoire de chacun de nos pas, l'auteur distille la complexité du monde avec raffinement et justesse. Voilà. Nous aurons le plaisir donc de vous entendre nous lire des extraits donc de ce Dimanche sans bigoudi. Donc, pas cru aux éditions Le Citron. Et puis, enfin, Citron Gare. Et puis, enfin, les deux derniers, Intervention en haute voix, qui est une association dont vous direz peut-être un mot. Détail d'intérieur. Alors, que nous dit Guy Chatti dans ce détail d'intérieur? Depuis quelques années, Basile Rouchain se promène en revues diverses, hein, ce que je disais, anciennes ou nouvelles, vieilles ou jaunes, classiques ou remuantes, assises ou découvreuses, en papier ou en ligne. Et de plus, il est attentif à l'écriture des autres et il a publié des articles fouillés et pertinents sur papier ou en ligne, notamment concernant Georges Hiverneau. Dans un style qui lui est propre, maintenant reconnaissable, il nous dévoile le monde à lui, reflet profond et subtil du monde réel et cruel dans lequel il vit avec nous. Pour cela, il pétrit, souvent avec humour, la matière des mots. L'apparition dans Intervention auto-voix est une affirmation, un jalon dans son cheminement littéraire. Et ça, c'était donc pour Détails d'intérieur. Et puis, dans les mêmes éditions, Intervention auto-voix, une pièce manquante et autres dépendances, où on peut lire ceci sur la quatrième de couverture, l'ellipse, le coup de taille ou d'estoc s'inscrivent dans la matière même du poème. C'est cela le style, le sien. Mieux que litote, l'économie absolue des mots, l'absence de récits, de romans, mais tout est dit. Basile Rouchain doit faire sa nouvelle place au soleil. La poésie gagnera. Alors ça, c'est Michel Host, que nous saluons ici, qui a été un de nos grands amis ici à l'émission Les Poètes, hein, qui a eu le prix Goncourt. Michel Host, qui est mort du Covid, il y a quelques années, tout à fait au début de l'épidémie. Voilà, j'en parle avec un peu d'émotion parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de tendresse et qui savait vous appeler, c'est terrible d'ailleurs qu'il soit mort comme ça, et qui savait vous appeler simplement pour vous demander comment vous allez. C'est rare chez les poètes, c'est rare. Michel Houtz, donc, il avait écrit ça dans la rubrique Le Scalp en feu, donc sur le blog de Cathy Garcia Canales, qui tient la revue, qui anime la revue Nouveau Délit, et que nous saluons, c'est une femme très très courageuse aussi, sur son blog qui s'appelle Cathy Garcia Hautefort, qui avait fait donc sur ce blog la recension de détails d'intérieur. Donc à sa façon, et ça c'est Lucien Vasselin qui dit ça dans la revue Texture de notre regretté ami Michel Baglin, une recension qu'il avait fait aussi en 2015. À sa façon, Basile Rouchain renouvelle la poésie d'humour. Voilà. Donc, il y a de tout cela, il apparaît d'abord des éloges quand même qui sont unanimes et très, très chaleureux, très sympathiques quand même de tous ces gens qui fréquentent et qui connaissent bien la poésie contemporaine. Et puis, on devine là qu'on est en présence d'un auteur qui n'est pas coupé du réel. On voit le poète, hein, il faut sortir de ce préjugé de voir le poète comme quelqu'un d'éthéré qui vit dans les nuages et dans ses rêves, mais au contraire comme quelqu'un qui a les yeux rivés sur le réel et qui arrive à discerner ce réel peut-être d'une façon, je dirais, tout à fait hypertrophié, et c'est hypertrophié par le fait qu'il a ce miracle de la langue qui lui est donné parce que c'est un artiste et qu'il peut, par une sensibilité qui est certainement une sensibilité exacerbée, il peut arriver à mieux dessiner. Donc cette réalité à sa façon, bien sûr, avec humour, parce que l'humour c'est une façon d'être pudique. Nous allons d'abord maintenant passer bien sûr la parole à Basile Rouchain pour nous dire d'abord comment lui il a vécu toute cette création, parce que bon, j'en parle là très très rapidement, mais ça ce sont des années d'écriture. Donc comment il a vécu ces années d'écriture, et puis comment est né ce style, et quelle est sa vision un peu maintenant de sa façon de vivre le monde comme un poète. Vas-y, c'est à vous.
C'est à moi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Et puis, y a beaucoup de questions. Alors, ça va aussi que j'ai été ému par les auteurs que vous avez mentionnés, tout ça qui est effectivement. Quand on débute dans les revues, tout ça, on a besoin de pères qui sont nos aînés, puis qui nous font la courte échelle, on va dire. C'est quand même Guy Chaty, Michel Host et bien d'autres m'ont permis ça. Donc ça, vraiment, c'est vraiment inappréciable.
Non, j'ai rien dit.
Donc pour répondre à vos questions, donc comment elle a vécu ses années d'écriture, donc bon, comme vous l'avez dit, j'ai déjà passé les 50 ans, ça fait déjà un petit moment que j'écrivais, comme aussi quand on est adolescent, tout ça. Et puis après, j'ai fait des études de littérature. Et puis après j'ai travaillé, mais l'écriture a toujours été là, présente. Après, je la tenais un peu à distance parce que elle est exigeante, elle demande du temps, elle fait perdre un peu pied parfois, en tout cas c'était mon sentiment à l'époque, elle fait perdre un peu pied avec ce que vous appeliez justement une réalité. Et donc je vous avouerai que je ne suis pas un forçat de l'écriture. C'était très bien les revues parce que de temps en temps je publiais et puis après je pouvais retravailler un petit peu mes textes avant de le présenter à un éditeur. Donc ce temps là ça m'a permis de maturer les choses et puis de pas parce que la petite machine ne s'emballe pas et puis de rester les pieds dans une réalité. Voilà, c'était ça un peu mon inquiétude en fait. En ce qui concerne le style, alors c'est quelque chose qui se construit aussi avec les lectures beaucoup. Donc moi j'ai toujours beaucoup, enfin toujours, et à partir de 13 ans j'ai beaucoup lu. Et forcément, ça a fait un terreau qui fait j'ai trouvé en tout cas une forme d'écriture qui me convient, on va dire. Donc, où je peux m'exprimer. C'était un peu ça, c'était un peu ça qui était important, avoir un espace d'expression. Voilà. Il y avait une troisième question, j'ai dû la faire disparaître.
Si vous voulez bien, on va prendre un des premiers recueils, Scène du placard.
Oui, d'accord.
Ouais. Le placard, il y a une très belle préface là aussi de Jacques Luchetti.
Oui.
Qui parle du placard. Hein. Bon, on a tous connu, je pense, des gens qui sont dans les placards. Même pour moi, par exemple, qui ai travaillé dans l'administration, j'ai vu des cadres supérieurs, par exemple, qui étaient mis au placard.
Mmh, tout à fait.
Et d'ailleurs, ça m'avait tellement interpellé que dans l'administration dans laquelle j'ai travaillé, j'avais demandé de faire un recensement et le recensement a été absolument vertigine, ce qui veut dire que l'exclusion c'est quelque chose qui est assez universel et qui touche en définitive toutes les catégories socio-professionnelles.
Tout à fait.
Vous avez écrit donc Scène du placard. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en deux mots? Ce sont ces scènes de placard. Il dit, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Ça pouvait se lire comme une sorte de puzzle pour voir de page en page se préparer le portrait d'une société en perdition. Ça fait penser, c'est vrai, hein, aux Vies minuscules. Hein, ce livre Vies minuscules qui est un chef-d'œuvre, hein, de Pierre Michon. Et est-ce que vous pouvez, alors comment viennent ces sujets? Je pense qu'il y a beaucoup de pour Artaud par exemple, etc. Ça vient évidemment des lectures, mais aussi est-ce que ça vient d'une observation aiguë de la société, des gens qui nous entourent, de votre quotidien?
Alors en effet, oui, il y a plusieurs voies, POIEF qui me nourrissent, et puis les lectures font partie, le quotidien aussi, bien entendu, mon expérience personnelle. Cette question, alors le c'est l'éditeur qui m'a soufflé le titre. On n'arrivait pas à trouver de titre. Moi, j'avais trouvé un titre qui qui n'allait pas finalement avec son catalogue, parce que l'avant-dernier livre, avant moi, c'était Ombre portée. Ah oui. Et puis, moi, j'avais mis aussi Ombre dans mon titre, je ne me rappelle plus lequel c'était d'ailleurs. Et je lui ai dit que ça pouvait poser problème. Et puis, on a réfléchi. Et puis, c'est lui qui m'a proposé Saint de Takar, ce qui m'allait très bien, parce qu'en effet, cette question de du monde du travail, la placardisation, un ouvrage qui a fait date d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout de la poésie, mais qui est un ouvrage d'un psychiatre qui est archi connu, Marie-France Irigoyen, en 1998, oui. Sur le harcèlement au travail. Oui. On a parlé, après, bon, ça a été, voilà, après il y a eu toute une législation autour de ça. Et donc le placard, comme un peu une penderie, c'est un endroit où on se retrouve un peu puni, un peu avec des objets inertes, quand on est, ça peut être un radiateur et une plante verte, je veux dire, ça peut être aussi une penderie où il y a des vestes et un vieux téléphone. Et donc, en attendant effectivement de sortir, et parfois il faut attendre qu'on nous ouvre la porte, ou parfois il faut l'ouvrir. Quand on est enfant, en tout cas, on attend, mais quand on est plus grand, on peut ouvrir cette porte. Donc, tout ça est un cheminement, en effet. La question de, du coup, le placard, c'est quelque chose aussi d'un peu plus plus vaste, parce que c'est aussi effectivement l'exclusion, le travail de l'ombre, de beaucoup d'anonymes. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de prénoms aussi dans ces deux derniers recueils. Et puis bien sûr, la question du je crois qui me taraude beaucoup, c'est la manière dont les humains se traitent les uns les autres.
Oui, c'est la question fondamentale, et cette question, on va la retrouver, je crois, quand même tout au long de toutes vos publications. Dans les recueils là que j'ai cités, cette question des rapports humains, en définitive, elle est bien entendu omniprésente. Mais comment pourrait-il en être autrement, moi je me demande, hein. Est-ce qu'on peut vous demander de lire quelques extraits, donc de scènes du placard?
D'accord. Je dispose de combien de temps pour savoir, pour
le lecture. Il est 14h28 et l'émission doit s'arrêter à 55.
Hein. D'accord.
Voilà. Donc,
d'accord. Voilà. Très bien.
Mais vous lirez après des extraits des autres recueils. Hein.
D'accord. Donc, pas dans l'ordre chronologique, vous m'avez dit tout à l'heure.
Non, peu importe.
Non. C'est pas grave,
faites ce que vous voulez, vous avez tout à fait le libre choix.
Ida, petite dans les gorges du Gardon, je jouais à chat perché en compagnie de père. Au diable les pochettes en carton, les dossiers suspendus, les appels d'offres. Père troquait bureau à distance contre guitare et guimbarde. Poussait la chansonnette jusqu'à s'enrouer. Charade, scénette, rébus, le temps passait dans la bonne humeur. Une fois, ma devinette, à propos d'un rouge-gorge facétieux, le laissa perplexe, au point qu'il donna sa langue au chat. Le félin, fort de ses coussins, lui gratta d'abord la pomme, puis, sans montrer bobine, de sa patte, pelota ses nerfs. En son cou, tels des épis d'orge de rue, ses moustaches trouvèrent refuge. Près de la cheminée, père se mit même à ronronner. Il devenait chat. Litière, sac à croquettes, écuelle, le chat était son tout. Inquiet, le toubib l'invita à déboutonner sa chemise de marque à col miaou. Faites A et précisez-moi la manière dont Mistigris vous laissa sa griffe. Réflexion faite, docteur, je préfère ne pas signer ma perte en soignant ma toux. et père bondit, dévala l'escalier, à tout jamais se percha. Allongé sur le canapé, le parent fourbu décide du programme. Projeté sur la télévision, des séquences de l'école des fans ou de Magnum défilent. Le passé, ongle pointu, ficelle aux phalanges, semble rattrapé sur l'estrade d'un sinistre théâtre. À ses côtés, sous la couverture bleue à fermeture éclair, chrysalide aux airs de souricière, antichambre de l'excitation à laquelle son père et sa mère se livrent à d'autres occasions, l'enfant se raidit. Sous la pression d'invisibles anneaux, ses reliefs disparaissent. Son visage tourne au pourpre, gonfle, se cerne. Du coin de l'œil, derrière un rideau de bambou, le faune en bronze observe cette mise à plat, cet écrasement d'une personnalité par une autre, cette asphyxie légitimée. Le désir du père entame sa mue, sillonne à découvert, passe à l'attaque. Une flûte de pan accompagne la constriction en une série de sons chauds et de chuintements boisés. Le canapé en sky se ramollit, aère ses écailles grises, s'allonge comme un reptile affamé. Les corps enfoncés dans un lit de lentilles vertes et rousses stagnent en plein marais, au milieu des grondements sourds et des instincts primaires. Le plus vieux s'approche, son prolongement génétique cherche la fuite. À moins que l'histoire n'écarte sa terrible mâchoire, déforme sa chair molle, enveloppante pour les absorber ensemble, à moins que la présence sournoise amphibie du passé ne se faufile entre les grandes eaux croupies de l'humanité et les bancs de terre fermes pour embrasser ces deux destins sans importance, à moins qu'un dieu lénifiant ne leur réserve un traitement similaire en dépit du fossé des générations et du niveau de responsabilité variable selon l'âge, que comprendre de l'existence d'un père et de son fils liés par le sang, unis par la mort? Que penser de ces vies dépassées qu'un au-delà réconcilie? Le petit bois éructe au passage du tison. Les bûches crachent leur suie âcre. Ventre opportuniste, le feu crépite dans son foyer. Des pots métalliques alignés sous une gravure banale et quelques VHS garnissent la cheminée en grès. À bout de souffle, hypnotisé par les images, l'enfant qui répond au nom de Gaspard se fige. Soudain, le voilà qui se lève, hurle, insulte son parent, le confond. La dextre paternelle a donc rampé jusqu'à palper ses parties. Au son des cris, mère quitte la cuisine. Que se passe-t-il? Son mari bafoue des explications inaudibles. Parle de tendresse mal interprétée, de situation d'isolement affectif dont il conviendrait de sauver leur rejeton. Et cet enfant qui ne comprend jamais rien, et ce héros qui n'est pas prêt de recommencer. La fumée longe un étroit et sombre conduit. Fissa, le jeune marcassin, monte à l'étage dans son antre cossu. Lécher ses blessures, garrotter sa colère. La mère, adossée au radiateur, garde le silence, fixe l'écran. Elle sait ce qui revient à son homme, mais s'en défend. Sur les étagères, ivoire et poupées russes peuvent en témoigner. Pas les soldats de plomb, en joue vers le mur. Elle s'interroge toutefois sur le comportement de son adolescent. Celui-ci présente des troubles inquiétants, durables, voire des déviances perverses. N'a-t-il pas fabulé de nouveau, ce bon faiseur de prophéties autoréalisatrice? Cette réplique de Saint-Samoth qui ne voit que ce qu'il croit. Il est clair que ce gosse à histoire se fourvoie face au contenu de sa propre boîte à fantasmes. Son suivi bi-hebdomadaire et plus tard l'internat dans un lycée coté pour indésirables contribueront-ils à le remettre dans le droit chemin? Au contour flou, gênant, la mère opte pour une réalité au tracé net. La sienne, rancune à la gâchette et celle du collimateur, friand de faux pas. Elle s'interroge de nouveau. Son fils détourne-t-il son mari d'elle? Dans une logique d'apparence préservée, cette tranche de vie peu glorieuse ne figure pas dans l'album de famille propre, lisse, quoique truffée de secrets et de vérités approximatives. À toute fin utile, est-il nécessaire de préciser que la honte bue, cette concoction de liseron, altère toujours la voix de Gaspard? Par ailleurs, que cachent ces données à charge révélées sur le tard par celui qui en fut l'objet? Les proches, décrétant l'état d'urgence absolu, s'en indignent. Il s'agit d'une immense tromperie perpétrée par un gamin perturbé, devenu majeur, fou, irresponsable. Ce mensonge aurait dû nécessiter d'office une obligation de soins assortie d'un séjour prolongé en maison de redressement. Quant au prétendu malade, il s'investit dans une formation pour adultes dispensée à l'école des pères. morne, il goûte rarement au bonheur. Vie sous cloche.
Vous rappelez, s'il vous plaît, de quel recueil est extrait ce que vous venez de lire ?
Scène du placard.
Scène du placard, donc toujours aux éditions du Port d'Attache. Voilà, donc on a vu là le style, hein, c'est un style, bon, c'est de la prose. Beaucoup de, comment dirais-je, d'aphorismes. Il y a aussi, vous êtes aussi un champion de l'aphorisme. Hein. Bien sûr, dans la lecture, tout ceci s'enchaîne, mais quand on a le texte sous les yeux, on voit vraiment combien tous ces textes se répondent, certes, mais sont très séparés les uns des autres. On peut passer, si vous voulez, oui, à Dimanche sans bigoudi.
Oui.
Alors, si vous pouvez nous en dire deux mots avant de...
Bien sûr. Voilà. Alors, Dimanche sans bigoudi, vous en avez donc parlé, l'édition de Citron Gare. Donc, Patrice Malterne est à la tête de ces éditions. Il est aussi, comme chacun sait, il a édité longtemps la revue Traction Brabant, jusqu'en numéro 104. Et donc, comme Cathy Garcia, Patrice Maltaverne a accueilli mes textes, et puis on s'est liés d'amitié, on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis, j'osais pas trop lui présenter quelque chose. Et finalement, ça a pris du temps et au début, il n'était pas trop partant. Et puis, il y a eu, je pense, une occasion pour que je dans son programme d'édition, que je lui présente quelque chose. Donc, j'étais très content de ça. Et puis, effectivement, vous l'avez mentionné, Jeanne Bernard Chatie, donc la femme de Guy Chatie, a illustré... le recueil avec des peintures qu'elle a faites moi j'étais très content de pouvoir faire quelque chose d'un peu y associer des personnes avec qui je m'entends bien dans des projets comme celui-ci. Donc Dimanche en bigoudi est sorti il y a ça à peu près 2 ans, je crois. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Laurent Bessière aussi a fait une quatrième de couverture. Laurent Bessière, que j'ai rencontré dans le cadre de l'intervention à haute voix, à Chaville. Et donc, il m'a gratifié de cette belle quatrième de couverture. Et donc voilà, et des rencontres autour de ce recueil et à l'intérieur aussi, du coup. Alors, si vous voulez, je vous lis quelques extraits. Merci. Oui. Ode Rhésus, pour n'avoir pas allaité, Tracy est persuadée d'être une mauvaise mère. Que faudrait-il pour démentir cette certitude ? Purger son sang noir ? Faire téter le temps dans ses bras, Tracy a des caillots dans les oreilles et sa mémoire s'est arrêtée. Jamel sait que la fête s'achève. Une nappe de larmes stagne dans ses yeux. Discret, les fonds de verre teintent sur la desserte. L'hiver rafraîchit la pièce, pompe les jours, trace des croix sur des fenêtres embuées. Visière au cœur, il revisite les lieux secrets de sa jeunesse et s'apprête à débarrasser le plancher. Sans écaille, son regard vogue à l'horizon. Sa vie s'écoule. Prends l'eau. Axel n'est pas quelqu'un d'ordinaire, tel un croissant allégé de ses matières grasses ou un banal carburant en rupture de stock. Non, il porte beau dans son costume de jeune marié. Son corps, son cœur désormais pris, s'allume de flammes bleues. Des cotillons colorent ses épaules et des sourires se posent sur sa bouche. Que de pis, fleurs à la boutonnière, nœuds papillons ou bêtes, Il laisse ainsi le bonheur délivrer ses grâces, l'amour lui accorder la primeur. Est-il le timide messager du printemps, le nouvel élu de la belle saison? En dépit de telles distinctions, Axel n'est pas à vendre. Un été, en bord de mer, âgé d'environ 5 ans, Firmin trompa la vigilance de sa mère qui le serrait par le bras. Fuyant sur la digue à hauteur de présentoir, il vola une barre de chocolat et la mangea devant la terrasse d'un café. Une dame assise lui souriait, du sucre dans le regard. Le cœur dissous de Firmin tenait dans sa main. La classe de mathématiques donne sur le gymnase et les branches d'un auguste cèdre. Madame L, crinière bouclée, chemisier classique, jupe de couleur unie, y enseigne la logique, les opérations. Dans les travées, elle regarde les résultats, soutient les plus faibles. En milieu de rang, mon tour arrive. Elle se penche sur moi, face à mes divisions posées. J'entends le collier de perles balancer, un accent teinté sur chaque bord de mes oreilles. La pointe d'un de ses seins effleure ma nuque. Elle chuchote des explications. Ses bras m'entourent. Je sens un souffle passer dans mon cou. Enivré par son odeur, des frissons me parcourent les bras. On prie dans son ombre, premier, coulé dans sa discipline et son intimité, je deviens le cheveu sur sa langue. En somme, je me prends à rêver. Il n'y a plus qu'elle et moi, Hugolin. Jasia. Pour le repas de Noël, Mémé parfumé a fait la route en robe au volant de son auto. Quant à papa, il revient de loin. Le service l'a laissé filer avec ses pas de contentement. Tant de tuyaux, de pansements, une vraie usine à gaz. Depuis, petit caillou ne monte plus. La dinde au marron se marie à merveille avec le vieux vin savoureux. Un ange passe. Maman mange l'aile. Resserre papa d'une cuisse. Émile s'imagine occuper la piste de danse où sa belle se déhanche. Celle-ci, livrée aux cavaliers, manie tourbillon, virevolte et figure acrobatique. Lui, mécanique grippée, vert épais, genoux en kevlar, n'a de cesse de fixer cet effeuillage de son fauteuil. Une chorégraphie de pétales rouges s'emballe sous ses pupilles déboulonnées. Éclose, elle est heureuse. La main verte, il lui sourit au loin.
Bien, on a vu que là, il s'agit d'une série de photographies, hein, d'une espèce d'arrêt sur image de la réalité, de la vie, et qui, bien entendu, est toujours la traduction de sentiments, de pensées, c'est-à-dire que... C'est toujours la traduction d'une vie qu'on ne voit pas, qui nous échappe, hein, et que le poète, lui, arrive à contourner, c'est-à-dire à dessiner les contours de la scène. Voilà. Alors tout ça, ce sont bien entendu toute une série de petits paragraphes. C'est de la prose, hein. Mmh. Et qui ajoute comme ça photographie sur photographie et qui dépeignent en définitive ce fameux dimanche sans bigoudi, c'est-à-dire toute une série de scènes de la vie ordinaire, hein, aurait dit Georges Perros.
Oui, j'aime beaucoup Georges Perros.
Alors, on va passer maintenant à... alors, cette fois-ci, ce sont des... Alors, ce n'est plus que de la prose prosaïque. Il y a des poèmes, donc, en vers. Les détails d'intérieur aux éditions Interventions en haute voix.
Oui.
Voilà, si vous pouvez nous en dire peut-être deux mots avant de nous lire quelques extraits.
Bien sûr. donc détails d'intérieur, donc avec la postface de Guichetti que vous avez lu tout à l'heure, qui paraît donc en 2015, si je ne me trompe pas, donc l'édition Intervention à haute voix, donc Maison des jeunes de Chatelet. Alors, ici, dans ce recueil, j'ai parlé d'une thématique, j'ai voulu parler d'une thématique, c'est un peu dur à expliquer, mais ça concerne les violences domestiques. Et j'ai voulu qu'il se passe à huis clos, en général, et puis les voisins n'entendent rien, ne voient rien, et puis il y a des drames qui se jouent comme ça, complètement sous verre, et moi ça m'a touché. Et voilà, le fil rouge, c'est ça, donc c'est encore une fois la manière dont se traitent les hommes, et puis alors, là pour le coup, comment l'homme traite la femme, mais parfois ça peut être l'inverse aussi, mais c'est plus rare. Et c'est-à-dire maltraite là pour le coup. Et donc voilà, donc c'était vraiment le projet. Alors voilà, donc je vais passer à quelques petits textes pendant. Enfoncé dans le texte. Codex à manches longues, parchemin pour les mythes de l'éternel féminin. Ma peau s'enroule dans son étui de laine. Tu y as incrusté tes phrases au calam. Plus tard, on dira frapper un texte, maltraitant mon histoire. Sans nuages de lait. Hier, madame a vu myriades d'étoiles, la voie lactée jusqu'au réveil. Monsieur, qui a fait ses misères, siffle son grand crème. Ce matin, madame ne prend rien. De toute manière, elle n'est pas traitée. Les arts ménagers. Tu t'octroies le droit de jouer au coquin, pour l'instant d'après, faire dans le coq-art, jusqu'à plier ta cocotte domestique. Suggestion. Varie tes supports d'activité manuelle, atelier maison, session origami. Compose une geisha, le coccyx cassé. Un air de famille. Un serpent semble-t-il s'est glissé dans leur petit nid douillet, sixième étage, porte gauche. Je ne recommencerai plus, susurre-t-il, en effleurant sa face bleuie. Elle serre ses lèvres tuméfiées, la promesse d'étale, puis son regard oscille entre l'appel d'air de la fenêtre et le manche-disque félon. Après la vie de tempête, en 33 tours, un vent pacifique souffle. Ne pacifier. PV intime. L'agent domestique arrête, verbalise, plaque, cerne. Protection rapprochée, fourneaux et casseroles. A quitté son uniforme, ses souches, va m'arracher mon tablier, polar sans parole. Ainsi va ma vie, à la maison, en garde à vue, dans ce trou sans barreaux. Les yeux en amande, au beurre noir, voir au réveil, tout collé. La prise. Main dans la main, j'ai d'abord cru au coup de foudre. Ton style brillant, tes phrases en poulet, et personne pour me tenir au courant. Sans alternative, mon âme perdait son fil, les doigts dans la prise. Technique de l'or. À Frédéric. Me souviens plus ce type gris, gras, croqueur de mec, langue double, vie facile. Me souviens plus ces vers sifflés secs, kir à la crème de mur, le rohypnol en fiole, ivresse facile. Me souviens plus t'avoir confié, Fissa, mon code carte bleue, le mobile à clapet, argent facile. me souviens plus, l'hôtel au mur jauni, c'est Dracaméléon, mon corps, livraison comprise, coup facile. Pellicule perdue, en chambre obscure, mon réveilleur chant la nuit sans moi passée. Pavillon C, L2, ensuqué, traité au talc, je ravive la mémoire de mes orifices meurtris. Au temple, des prêches crèchent mes échymoses, des prêches crèment mes échymoses. Flash, reporter à capote, mèche décolorée, parti au petit matin. Zoom vers l'inquiétante suite. Quel temps prendra cette affaire devant la cour? Pensez votre corps violet, l'autre issue facile sort blanchi.
Si vous le permettez, dans la préface de Marie-Madeleine Fragonard,
oui,
elle dit ceci, qu'attendre de la poésie, parce qu'effectivement, pour reprendre ce que j'avais énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que la poésie n'est pas du tout une fragmentation des rêves, mais au contraire, comme dit Marie-Madeleine Fragonard, certains attendent du beau, de l'extraordinaire, du rêve de l'imaginaire, un langage convenu comme une patrie originelle, en fait, scolaire. C'est pas ça du tout, la poésie. Hein. Et donc, elle le dit bien, elle. Rien de tout cela dans la poésie de Basile Rouchain. La versification lui donne un rythme court, non pas rapide, mais comme intermittent. Le suspense, à la fin de chaque vers, de chaque strophe, le blanc n'est pas qu'un artifice graphique. Il se passe quelque chose dans ce blanc, l'approfondissement, l'angoisse, la découverte, la résignation, la voix qui parle, marque une attente. Pas de lyrisme qui se satisferait de son propre envol, la poésie de Basile Rouchain tient à distance une posture d'exhibition du cœur, qui est classique, et du cœur arraché, le baroque. On ne concède rien au cliché, il faut tuer le rossignol, entre guillemets, tenir un fil fragile, cela s'appelle de la pudeur. Poésie très loin des indignations véhémentes, le pathos est suspect, truqué, stéréotype, appel compassionnel détestable et vampirique, adopté par les séries télévisées et les actualités où l'on se repaît du malheur d'autrui avant de l'oublier dans une indifférence bétonnée. Sans s'apesantir, l'infini respect est le contraire du voyeurisme. Paradoxalement, au regard de la dureté des faits, le poète joint en sourdine les mains. Si c'était une prière, elle serait miséricorde. Alors, je crois que vraiment, c'est magnifiquement dit. C'était pas facile de faire une préface sur vos textes, là, hein, puisque c'est une critique sociale, ces textes-là. Là aussi, dans cette lucidité qui est propre peut-être à l'artiste et qui diverge complètement de la façon dont effectivement on peut le présenter sur le plan, comme elle dit, compassionnel, etc., qui permet de faire de l'audimat, hein, de faire de l'audience, mais qui est oublié tout aussitôt. Donc le poète, il va faire quelque chose en profondeur là-dessus. Et c'est très difficile d'avoir abordé un sujet comme le vôtre. Très difficile. Je me souviens, moi, d'avoir cité certains auteurs et avoir eu des retours de l'émission sur cet auteur en me disant qu'il s'agissait de Muriel Modelli qui avait écrit sur des scènes de la vie quotidienne et en particulier sur les scènes de notation l'évaluation professionnelle annuelle. Et j'ai eu des réactions vraiment très vives, très en disant, mais comment, ça n'a rien à voir avec la poésie, comment vous pouvez permettre, etc. Or, Muriel Modelli est une grande poétesse. Justement parce que elle a compris qu'il n'y avait aucun domaine qui échappait à la poésie. Et vous aussi, bon, moi quand j'ai lu ça, c'est dur, les violences conjugales, etc. Waouh, comment on peut s'en sortir pour parler de ça? Eh bien, ouais, d'abord, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace. Mais Vous avez raison, comme Muriel Modéli, il n'y a aucun domaine, je dis bien aucun domaine, qui échappe au domaine de la poésie. La poésie est chez elle, partout. Elle peut prendre toute la vie, tous les éléments de la vie peuvent constituer le poème, peuvent s'inclure dans le poème. Voilà. Et donc c'est très bien d'avoir écrit des tailles d'intérieur, c'est très courageux, c'est très difficile, hein, très difficile. Bon, vous y arrivez à ce succès parce que vous évitez tout le pathos, tout ce qui est, en définitive, tout ce que notre société arrive si savamment à truquer. Voilà. On va passer au dernier parce que malheureusement, oui. Ah oui, bon, il reste 2 minutes, me dit oui. Claude. Donc une pièce manquante et autre dépendance. Bon, vu le peu de temps, je vais vous demander simplement, alors c'est toujours publié aux interventions en haute voix, c'est un recueil qui vous coûtera 10 €. Je vais vous demander simplement de nous lire, alors si vous voulez bien, je vais vous demander de lire le poème page 29 parce que il est pour Yves Hurtet, très très bien connu, bien sûr, qui a été un de mes amis, avec Claude d'ailleurs, nous sommes allés chez lui peu de temps avant sa mort, qui nous a annoncé d'ailleurs, juste au moment de partir, mais ce serait une autre histoire. Je voudrais que vous nous lisiez ce texte, Port de Voix, page 29, et nous allons finir là-dessus, puisque nous sommes dévorés par le temps. Et d'accord, merci beaucoup.
Merci à vous. Port de Voix. Réfugié. Pas de Calais, pas même de Lorient ou d'ailleurs. Aussi se taire devant ses frères passeurs. Ferme ici la prison tient lieu d'asile. 4 murs, une terre meuble, un droit du sol battu en brèche, de la peine. Là-bas, le village véhément lapide les Ulysses vaincus. Échec en pays escarpé. Seul, devant son devoir, pas de Calais, pas de choix. Sous sa chemise, la peur traverse la manche. Où mène la mer démontée, vers un hameau cossu, au bocage remembré, un port industriel, quelques terrains d'exercice pour patrouilleurs armés, avec des souvenirs au bras tendre ou viril, il va quitter notre monde, un rêve sain au cou. Voilà. Pour y verter, effectivement.
Merci.
Quand j'avais lu un recueil que j'avais beaucoup aimé.
Merci beaucoup, Basile Rouchet. Donc, on rappelle les titres de vos recueils. Scène du placard aux éditions du Port d'Attache. Dimanche sans bigoudi aux éditions Le Citron Gare. Détail d'intérieur à intervention à haute voix. Et une pièce manquante et autre dépendance à intervention également à haute voix. Vous retrouverez tous ces renseignements sur notre site, et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site Les Poètes, tout attaché sans accent, .site, lespoètes.site. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.